D'abord, les grands titres de ce mardi 27 février en Australie. Michael McCormack, le nouveau Premier ministre adjoint et le nouveau chef du Parti national après la démission de Barnaby Joyce. Le président russe approuve une trêve humanitaire de 5 heures par jour dans la Ghouta orientale en Syrie. En Australie, le nouveau Premier ministre adjoint et nouveau leader du Parti national, Michael McCormack, quitte ses fonctions comme ministre des anciens combattants pour prendre le ministère des infrastructures et des transports. Et ce matin, l'ancien Premier ministre adjoint, Barnaby Joyce, a parlé à des journalistes à Canberra sur le nouveau Premier ministre adjoint.
Look, I think Michael. You know, I think Michael's got a big job in front of him, and I wish him all the very best. And it's an incredible position, Deputy Prime Minister of our nation. Incredible responsibility.
Are you hoping to make a comeback down the line?
I'm hoping to basically just do a circuit breaker, as I said. Obviously, I'm going really well with that idea.
Is Michael just warming the seat for you until you come?
No,
back?
I don't work on that theory. No.
Would you like to return as Nats leader?
I never rule anything in or anything out, right? Because otherwise, later on in life, you look like a hypocrite.
Voilà l'ancien Premier ministre adjoint Barnaby Joyce. Et puis un député travailliste critique le gouvernement pour avoir décidé d'arrêter l'enquête sur la conduite de l'ancien Premier ministre adjoint Barnaby Joyce. Malcolm Turnbull avait demandé une enquête sur les dépenses encourues par Barnaby Joyce. Écoutez le travailliste Matt Thistlethwaite.
It says everything about the Prime Minister's approach to these ministerial standards and now the accountability of this government when he launches an investigation into Barnaby Joyce and whether or not there's been a breach of the ministerial standards, and then 3 days later it's cancelled. It says everything about the Prime Minister's inept and weak nature of his leadership and the fact that ministerial standards don't really matter as long as you sweep the issue away.
Voilà, c'était le travailliste Matt Thistlethwaite. Brett Guérin, le chef de l'organisme de normes éthiques au sein de la police du Victoria, a démissionné de son poste après avoir été lié à des commentaires racistes sur YouTube et après avoir commenté des propos inappropriés sur des anciens collègues. Le commissaire de police du Victoria, Graham Ashton, déclare que c'est un comportement inacceptable.
Certainly, we'll be today talking with the broader multicultural community. We'll be talking with our Human Rights Advisory Committee, which advise us on human rights matters. I'll also be talking with the Human Rights Commission also and having a chat with them about these behaviours and getting whatever advice I can as to what we can do to continue to improve the culture at Victoria Police in relation to this sort of thing.
Le commissaire de police du Victoria, le gouverneur général Sir Peter Cosgrove, a souligné l'importance du pays dans le domaine du multiculturalisme et de la diversité culturelle lors d'un discours au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. L'Australie a été élue à ce conseil pour 3 ans depuis octobre dernier. On écoute Peter Cosgrove.
Membership of this council brings great responsibility. While it also offers opportunity and potential for good. We have a duty to promote the rights of the most vulnerable, oppressed and discriminated communities and to seek universality of human rights to all parts of our world.
Voilà, c'était Sir Peter Cosgrove, le gouverneur général. Les experts des renseignements en Australie vont secrètement enquêter sur les migrants potentiels qui veulent venir s'installer dans le pays. Ce serait une initiative du ministère de l'Intérieur, selon les rapports du journal The Daily Telegraph, qui déterminera comment les migrants potentiels, je cite, s'intègrent dans la société et s'engagent à respecter les principes occidentaux d'égalité des sexes, de liberté de parole et de liberté de religion. Ce serait aussi un moyen d'empêcher les extrémistes radicaux de venir en Australie, selon Michael Pezzullo, le ministre délégué aux Affaires intérieures. La proposition, selon lui, ne vise pas à exclure une communauté ou un groupe ethnique en particulier. Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, réaffirme que son parti ne soutiendrait pas le projet de loi du gouvernement pour les réductions d'impôts sur les sociétés. Hier, le Premier ministre a parlé des bénéfices d'une telle réduction d'impôts pour le pays en adoptant ce que les États-Unis viennent de faire. On écoute Bill Shorten.
He seems to be quite taken by our Trumponomics. But I make it very clear that whilst there are many things to admire about the United States, our closest ally in terms of security, that we do not want an American-style wages system in this country.
Voilà, c'était le chef de l'opposition fédérale. La ministre australienne des Affaires étrangères, Julie Bishop, soutient la proposition des Nations Unies de poursuivre ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité en Syrie. Julie Bishop.
There are allegations of the use of chemical weapons. Australia condemns absolutely any use of chemical weapons. We have imposed sanctions on 184 individuals and entities whom we believe have been involved in some of these crimes. And we're also supporting the United Nations set up an investigative mechanism to investigate and hopefully prosecute these crimes against humanity.
Et puis le président russe a approuvé une trêve humanitaire de 5 heures par jour dans la Ghouta orientale en Syrie. Précision de Toufik Benaïssouche pour RFI.
Sur ordre du président Vladimir Poutine et pour éviter les pertes parmi les civils de la Ghouta orientale, une trêve humanitaire quotidienne sera instaurée à partir du 27 février de 9h à 14h. C'est ce qu'indique le ministère russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Le ministre précise, des couloirs humanitaires seront mis en place pour permettre l'évacuation des civils. Les coordonnées de ces couloirs seront prêtes et seront rendues publiques bientôt. Pour le moment, en tout cas, les bombardements continuent, même s'ils ont baissé d'intensité. En revanche, beaucoup d'interrogations demeurent. La trêve des armes est valable de 9h à 14h, très bien, mais cela veut-il dire qu'entre 14h et 9h, il est permis de reprendre les combats ? S'agira-t-il du même scénario qui avait été appliqué pour la ville d'Alep en 2016 ? Le régime de Damas, à l'époque, et Moscou, avaient instauré une trêve unilatérale pour permettre l'évacuation des civils et le retrait des combattants avant que le régime ne reprenne entièrement le contrôle de la ville. Dans les déclarations russes, pour le moment en tout cas, on n'évoque pas le départ des opposants armés de la Ghouta. Pourront-ils quitter eux aussi la région pour peu qu'ils le veuillent ? Là aussi, aucune précision.
Toufik Benaïssouche pour RFI. En Afrique maintenant, en République démocratique du Congo, après la répression des marches de dimanche dernier, la police assure qu'il n'y a eu aucun mort, mais les organisateurs, le comité laïque de coordination, parlent de quelques personnes tuées. Reportage Sonia Rollet pour RFI.
Pour le porte-parole de la majorité, ce serait le secrétaire général de l'UDPS qui aurait révélé l'étendue de la manipulation en affirmant que les marches des laïcs chrétiens étaient un succès grâce à une mobilisation à part égale de l'Église et du parti d'opposition historique.
Pour nous, au sein de la majorité présidentielle, la conclusion est simple. Les politiciens radicalisés du rassemblement se cachent derrière les chrétiens, instrumentalisent ces marches des chrétiens pour créer une atmosphère de chaos, remettre à l'honneur leur plan initial de prise de pouvoir par des moyens non démocratiques, de préférence par la violence de la rue.
Pour Christophe Lutundula, vice-président du G7 et membre du rassemblement de l'opposition, c'est un faux procès.
Ceux qui tuent, qui répriment, qui pillent la République pour conserver le pouvoir en violation des lois, ce sont ceux-là qui donnent des leçons et qui prétendent que des démocrates et des paisibles citoyens veulent faire un coup d'État. Ces manifestations démontrent que le pouvoir ne survit que grâce à la répression et à l'usage des armes et des caisses de l'État.
Pour le rassemblement de l'opposition, les marches des chrétiens sont bel et bien organisées par les comités laïcs de coordination. Et si les fidèles, toutes tendances confondues, répondent à cet appel, c'est parce qu'ils souhaitent l'ouverture de l'espace politique avant les élections.
Sonia Rollet pour RFI. En Grande-Bretagne, le chef des travaillistes Jeremy Corbyn veut maintenir une union douanière avec l'Union européenne après le Brexit. Explication de Muriel Delcroix pour RFI.
Après des mois de flou concernant le Brexit, la position de Jeremy Corbyn s'est faite un peu plus précise et le dirigeant Labour se dit désormais partisan d'une sortie en douceur, le fameux soft Brexit.
Le Labour chercherait à négocier une nouvelle union douanière globale entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour qu'il n'y ait pas de droits de douane avec l'Europe et pour contribuer à éviter le retour d'une frontière dure en Irlande du Nord.
Alors que Theresa May veut voir le Royaume-Uni quitter à la fois l'union douanière et le marché unique après le Brexit pour pouvoir négocier ses propres accords commerciaux, Jeremy Corbyn parle, lui, de rester dans une union douanière et de maintenir une forte relation avec le marché unique grâce à un accord sur mesure pour son pays. Le dirigeant travailliste n'offre pourtant aucun détail, notamment sur le devenir de la liberté de circulation ou le rôle de la Cour européenne de justice, et donne l'impression, tout comme les conservateurs, de vouloir finalement le beurre et l'argent du beurre. Néanmoins, il vient de fragiliser davantage la Première ministre, qui est sous la menace d'une rébellion au sein du Parti conservateur et pourrait subir une défaite au Parlement sur cette question de l'union douanière.
Muriel Delcroix pour RFI. En Australie, à nouveau, les maladies liées à l'abus de l'alcool, blâmées pour la mort de plus de 6000 personnes chaque année, selon une étude effectuée par la National Drug Research Institute de Curtin University en Australie-Occidentale. Et selon la professeure Tania Chickritz de l'Institut, une personne décède chaque 90 minutes en moyenne, une autre est hospitalisée toutes les 3 minutes et demie. Pour abus d'alcool, le cancer du sein et la maladie du foie étaient les principales causes de décès chez les femmes, tandis que la plupart des hommes mouraient d'une maladie du foie et d'un cancer de l'intestin. Le député indépendant Andrew Wilkie demande aux fournisseurs d'Internet d'être plus transparents. Il a présenté un projet de loi au Parlement fédéral demandant que la Australian Competition and Consumer Commission puisse avoir davantage de pouvoir pour demander des comptes aux entreprises de télécommunications si elles font de fausses promesses. Andrew Wilkie.
There is still a need to make a simple amendment to Australian consumer law that would give the ACCC the legal basis for demanding that telcos do deliver on their promise.
Right.
And also to allow telcos to be fined up to $1.1 million. If they're in breach of their promises. I mean, this isn't rocket science.
Voilà, Andrew Wilkie, le député indépendant au Parlement fédéral. Un mot de sport, et le sélectionneur de l'équipe australienne de cricket, Darren Lehman, estime que le batteur David Warner serait la clé d'une victoire pour les test matchs contre l'Afrique du Sud qui débuteront jeudi prochain. On écoute Darren Lehman.
The guys have had obviously a great test series against England, so they're full of confidence and they started the tour game well. So I think as a batting group, we know we have to make bigger runs than we did obviously when we played them last time. But someone like Warner coming off and had a great series 4 years ago, if he does that again, that puts you on the road to big scores.
Voilà le sélectionneur de l'équipe australienne de cricket. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. Sydney maximale de 25 degrés, Brisbane 28, Darwin 32, Perth 24, Adélaïde 35, Melbourne 30, Hobart 26, Canberra 27 et à Alice Springs maximale de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 27 février en Australie. Michael McCormack, le nouveau Premier ministre adjoint et le nouveau chef du Parti national après la démission de Barnaby Joyce. Le président russe approuve une trêve humanitaire de 5 heures par jour dans la Ghouta orientale en Syrie. Fin du journal. Merci à vous de rester avec nous.